Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 9. Les nouvelles arrivées d'Amérique avaient produit une impression profonde en France. Les succès remportés par le général Lafayette et la part si importante qu'avait prise le corps expéditionnaire français à toutes les grandes batailles livrées dans le Nouveau Monde était un aliment nouveau pour l'orgueil national. En outre, l'annonce de l'envoi par Washington des étendards pris aux Anglais était recueillie à la cour avec joie. Les courtisans de Louis XVI en profitaient pour exalter la valeur française dans la personne du souverain. Sa Majesté ayant décidé qu'on donnerait un certain éclat à la cérémonie de réception de l'envoyé de Washington, pendant plusieurs jours, on ne s'occupa à Versailles que de la fête qui devait avoir lieu à Trianon. La reine avait donné des ordres pour que le grand Trianon servît de décor à une de ces merveilleuses réceptions dont le règne précédent avait été si prodigue et dont la tradition s'était peu à peu perdue. Quant à Louis XVI, après avoir consenti avec peine et pour ainsi dire à regret au départ des troupes dont Lafayette avait sollicité l'envoi en Amérique, il attendait maintenant avec la plus grande impatience l'arrivée de l'officier qui apportait les témoignages de reconnaissance du grand patriote américain. Il était satisfait qu'on eût pensé au souverain qui avait daigné entendre l'appel du grand peuple, combattant avec une indomptable énergie pour la conquête de son indépendance. Le roi avait fort apprécié du reste l'idée heureuse qu'avait eue Washington de choisir un Français pour la mission qu'il eût pu confier à un des officiers de son état-major. Et quand le lieutenant de police appelé se présenta à Versailles, « Monsieur le comte, lui dit le roi, je tenais à être le premier à vous annoncer une heureuse nouvelle. Pour cette fois seulement, je suis mieux renseigné que mon lieutenant de police. » Monsieur de Lignières, incliné, attendait que le roi continuât. « Apprenez donc, fit Louis XVI en élevant la voix, que votre neveu s'est, paraît-il, couvert de gloire. Le chevalier de Vaudrey ? Et passé d'emblée grand homme de guerre. » Monsieur de Lignières, très ému, fléchissait le genou. Le roi le releva d'un geste amical, et reprenant la parole, « Monsieur le chevalier vous racontera du reste bientôt lui-même ses exploits, car je suis avisé de son prochain retour. » Puis sur un ton de douce bonhomie qui lui était habituel quand il parlait à ses courtisans, « Je ne vous cacherai pas, monsieur, que je verrai arriver le chevalier avec plaisir. » Et que j'ai donné des ordres pour que l'envoyé du général Washington soit reçu avec les mêmes honneurs que les ambassadeurs des grandes puissances amies de la France. » Et sans attendre que M. de Lignières fût revenu de sa surprise, le roi continua en ces termes. « Le chevalier de Vaudrey a mérité cet honneur. Vous pouvez en juger vous-même en lisant cette lettre que m'adresse le général Washington. » M. de Lignières prit d'une main tremblante le pli que lui tendait Louis XVI. Et comme il hésitait, « Lisez, monsieur, » insista le roi. Le lieutenant de police obéit. À peine avait-il parcouru les premières lignes que son visage s'anima. Une vive rougeur envahit ses joues quand Louis XVI, reprenant la parole, dit « Vous voyez, monsieur, que le chevalier de Vaudrey pourrait, selon une expression demeurée célèbre, se passer d'aïeux. Il s'est fait un nom qui demeurera célèbre dans les annales militaires de cette jeune Amérique, appelée à de grandes destinées, je crois. » Et je suis heureux, monsieur, que ce soit à l'un des nôtres qu'échoit la bonne fortune de donner au monde une preuve de plus du génie militaire de notre nation. « Sa Majesté me comble, » balbutia le comte. « Je rends justice à l'officier qui s'est montré à la fois intrépide et tacticien habile. Aux actions d'éclat, il faut une récompense éclatante et digne de nous. » « Le chevalier, » hasarda monsieur de Lignières, ne saurait obtenir une plus belle récompense que d'avoir l'honneur d'être admis en présence de votre majesté et de lui présenter les étendards enlevés à l'ennemi. » Louis XVI parut réfléchir pendant quelques secondes. Puis brusquement, « J'avais songé au chevalier de Vaudrey pour l'attacher à ma personne. Il n'a pas dépendu de moi que la faveur royale s'étendit sur votre neveu. » Monsieur de Lignières courba le front sous le regard du roi. L'allusion était trop claire pour qu'il ne la saisît pas tout de suite. Il s'attendait, après les paroles bienveillantes à l'adresse du chevalier, à ce que le monarque manifestât plus impérieusement que jamais sa volonté de choisir une épouse à Roger. La désobéissance du chevalier, en pareil cas, devait, pensait-il, englober toute la famille dans la même disgrâce. Mais le trouble qui envahit l'esprit du comte se changea en une violente impression d'angoisse lorsque Louis XVI ajouta « J'espère que M. de Vaudrey se montrera à l'avenir plus docile à nos désirs. » Et d'une voix plus sévère « J'ai aussi une police secrète, monsieur, et je n'ignore pas que le chevalier a songé, malgré notre volonté, à disposer de sa personne et de son nom. » M. de Lignières garda le silence. Au mouvement de joie qu'il n'avait pu contenir, en apprenant la satisfaction qu'éprouvait le roi de la conduite de Roger en tant que soldat, succédaient à présent les plus violentes appréhensions. En même temps, la promesse qu'il avait faite au chevalier lui revenait à la pensée. Il se rappelait les expressions qu'il avait employées pour donner l'assurance qu'il ne mettait qu'une condition à son consentement au mariage de Roger avec Henriette Gérard. Or, le chevalier avait absolument rempli cette condition exigée et il allait venir demander qu'on tienne la promesse faite. Que pourrait-on lui répondre? Si le roi s'obstinait à s'occuper des destinées de Roger, lui, comte de Lignières, manquerait-il à sa parole? Et Diane? Et Henriette? Comment leur ferait-il accepter un changement aussi radical de ses intentions si nettement formulées? M. de Lignières passait dans cette minute qui suivit les paroles prononcées par le roi, par toutes les émotions douloureuses de l'âme, quand Louis XVI s'interrompant tout à coup. « Le chevalier de Vaudrey sera dans 2 jours à l'île d'Aix. J'ai envoyé un courrier au-devant de lui. J'ai décidé que la réception officielle de l'envoyé du général Washington aurait lieu dans 8 jours. » Et, ajouta-t-il, « quand le lieutenant-général de police aura pris toutes les dispositions qui dépendent de son ministère, le comte de Lignières viendra occuper, dans les rangs de nos ministres et des personnages attachés à notre personne, la place que notre faveur toute spéciale lui accorde. » Le comte fut sur le point de s'arrêter à une grande résolution en suppliant le roi de le relever de ses fonctions de lieutenant de police. Louis XVI ne lui laissa pas le temps de prendre la parole. « La personne que M. de Vaudrey a choisie pour fiancée me sera amenée par vous. Votre Majesté sait... Je sais que vous accompagnerez cette jeune personne à Versailles. Je veux la voir à Trianon, le jour même où je recevrai le chevalier de Vaudrey. Et j'espère leur faire entendre raison à l'un à l'autre. J'aurais d'avance donné des ordres nécessaires pour que votre protégée, et il appuya sur le mot, soit admise et puisse attendre ce que j'aurais décidé à son égard. » Et d'un geste, Louis XVI fit comprendre au lieutenant de police que l'entretien avait pris fin. Pendant que le comte de Lignières reprenait tout troublé le chemin de Paris, il y avait grande agitation à l'hôtel du lieutenant de police. Picard s'était en effet rendu au ministère de la Marine, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire plusieurs fois par semaine, son excellent ami l'huissier lui avait appris le retour prochain du chevalier de Vaudrey. Et comme le dit huissier était très renseigné sur la correspondance du ministre, il avait pu mettre son bon ami Picard au courant de toutes les aventures par lesquelles le chevalier avait passé depuis son départ de l'île d'Aix. Le vieux serviteur de la famille de Vaudrey avait écouté en s'agitant comme un possédé sur sa chaise chaque fois qu'il apprenait de la bouche de l'huissier quelques mésaventures de Roger ou quelques actions d'éclat accomplies par le chevalier. Mais quand le narrateur en arriva au passage de son récit, qui concernait la grande bataille où, grâce à une inspiration du chevalier de Vaudrey, l'armée anglaise avait été littéralement taillée en pièces, Picard faillit devenir fou de joie. Il voulut se lever et retomba sur sa chaise, dont le bois craqua sous le poids de son corps. Il voulut parler, mais de sa gorge contractée, il ne put sortir que des sons bizarres, qui allait en une gamme comique du jappement du carlin au gloussement de la poule. L'huissier, qui prétendait avoir toujours été consulté par M. de la Pérouse, essaya en vain de conserver sa gravité. Au spectacle si réjouissant que lui donnait Picard, il partit d'un homérique éclat de rire. Quant au vieux serviteur, il était, à la fin, parvenu à retrouver la voix. Et il s'écriait avec un accent des plus comiques. « Ah, c'est magnifique ce que nous avons fait là !» Et, continua-t-il en s'animant, celle que nous aimons sera ravie, transportée, quand elle apprendra de notre propre bouche tout ce que nous avons fait de glorieux, d'immense, de sublime. Puis revenant à la conversation interrompue, quand arrivera mon maître? On l'attend bientôt, puisque les fêtes sont commandées pour dans 8 jours. Des fêtes? On va nous donner des fêtes? S'exclama Picard. Oui, répliqua l'huissier d'un ton solennel. Sa Majesté daigne accueillir, avec des honneurs inusités, le chevalier de Vaudrey, interrompit le vieux serviteur en se trémoussant comme un convulsionnaire de l'Inde. et se redressant de toute sa hauteur. « Quels honneurs compte-t-on inaugurer pour nous, pour notre réception ?» L'huissier, tout guindé dans son attitude solennelle, répondit lentement, en scandant sa phrase. « On recevra votre maître avec tout le cérémonial lucité pour les réceptions officielles des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires chargés d'une mission auprès de notre bien-aimé souverain. » Pour le coup, Picard, ne se contenant plus de joie, se mit à pirouetter sur ses talons en lançant son chapeau sous son bras. Mais inhabile à cet exercice, il jeta le couvre-chef en pleine face de l'huissier. Et sans entendre le juron que celui-ci lui adressait, Picard abandonna son chapeau et s'élança tête nue hors de l'antichambre. Quatre à quatre, il dégringola l'escalier et, en se retrouvant dans la rue, il huma l'air à plein poumon, puis avisant un carrosse qui passait à vide, il héla le cocher et se fit conduire à l'hôtel de Linière. En le voyant arriver, tête nue et le visage enluminé, les domestiques l'avaient entouré aussitôt. Mais lui, repoussant des coudes toute cette valetaille à vide de nouvelles, il pénétra dans l'appartement particulier de la comtesse, sans s'inquiéter du valet de chambre qui lui criait. « Mais où allez-vous donc comme ça, monsieur Picard ? Madame la comtesse est en société de mademoiselle Gérard et du docteur Hébert. »« Ah, tant mieux !» s'exclama Picard pour toute réponse. Et après avoir discrètement frappé à la porte du boudoir, il apparut subitement au regard des trois personnes qui s'y trouvaient. Et se précipitant à deux genoux aux pieds de la comtesse de Linière, « Nous revenons, madame la comtesse, » prononça-t-il d'une voix saccadée par l'émotion. « Nous avons remporté des victoires éclatantes. Nous avons scalpé des Indiens, incendié des prairies. À nous seuls, oui, à nous tout seuls !» Et reprenant bruyamment haleine, « Nous sommes vainqueurs, nous paraîtrons devant notre souverain tout inondé de gloire. Et c'est notre génie qui a sauvé Washington et Lafayette. C'est notre valeur qui a anéanti l'armée du roi George. » M. Hébert voulut couper la parole au vieux serviteur, mais celui-ci, se relevant d'un bond, courut à Henriette en s'écriant. « Et c'est pour notre fiancée que nous avons accompli tous ces exploits et que nous sommes devenus l'égal de ces grands capitaines dont les noms sont inscrits dans l'histoire, pour servir d'exemple aux générations futures. » Et avec un geste d'un comique irrésistible, « Oui, nous leur servirons d'exemple à ces générations. Elles répéteront notre gloire et nos... » Épuisé par cette improvisation folle, le pauvre Picard porta vivement les deux mains à ses yeux d'où s'échappaient d'abondantes larmes. Et comme le docteur et Henriette s'empressaient auprès de lui, il répétait à mi-voix. « C'est la joie, c'est le bonheur qui m'étouffe. Ah, je ne vivrai jamais assez longtemps pour jouir de toute la félicité qui remplit mon âme. » Pressé de questions, il cherchait encore à rappeler ses esprits et à mettre un peu d'ordre dans ses idées quand le comte de Linière parut sur le seuil. Le visage sérieux et presque sombre, le lieutenant de police contrastait si fort avec la figure rayonnante du vieux serviteur que Diane comprit tout de suite que le comte rapportait des nouvelles graves de Versailles. Ce fut le docteur Hébert qui prit la parole. « Vous m'interrogez, » lui répondit M. de Linière, « et à l'anxiété que je lis sur tous les visages, je n'ai qu'une réponse à faire. Sa Majesté attend l'arrivée du chevalier de Vaudray, chargé de présenter au roi de France les drapeaux pris aux troupes du roi George V. » « Quel bonheur !» s'écrièrent en même temps la comtesse et Henriette. « Seulement, il y a une ombre au tableau, » reprit M. de Linière, dont le front se plissa. « Sa Majesté m'a donné un ordre qu'il me faudra exécuter, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Et après un court silence, « Oui, » ajouta le lieutenant de police avec effort et en dirigeant son regard sur Henriette. « Le roi veut, » il souligna le mot, « voir mademoiselle Gérard. » Et il m'a ordonné de la lui amener à Versailles. » Le docteur et Diane comprirent à la façon dont la phrase avait été prononcée quel sens il fallait lui donner. À ce moment, la portière du fond se souleva, livrant passage à un nouveau personnage qui allait prendre part à la scène qui se déroulait dans le boudoir. C'était Louise. Louise, qui avait recouvré la vue et dont les regards se dirigèrent immédiatement sur Henriette, qui, la tête baissée et le sein haletant, paraissait en proie à une douloureuse émotion. « Qu'as-tu donc, ma sœur ? » s'exclama Louise en se précipitant vers la jeune fille. « Quelle nouvelle a-t-on reçue de monsieur le chevalier de Vaudray ?» Puis, s'apercevant seulement alors de l'air contraint des autres personnes qui se trouvaient là, Louise alla s'incliner devant le comte de Linière en disant « Monsieur le comte, ne me laissez pas supposer qu'un malheur a pu fondre sur votre famille. Dites-moi, je vous en conjure, si vous avez reçu des nouvelles. Roger se porte à merveille, mon enfant, répondit madame de Linière, intervenant. Et il sera de retour sous peu, s'empressa d'ajouter le docteur. Mais alors, fit Louise en dardant sur le comte des regards où se lisait la plus vive anxiété. Pourquoi Henriette baisse-t-elle ainsi les yeux? Pourquoi est-elle triste? Pourquoi son front se penche-t-il comme lorsqu'un coup inattendu vous frappe à l'improviste? Ma sœur, répondit Henriette en faisant un effort pour assurer sa voix. Monsieur le comte ignore sans doute ce que Sa Majesté médite à mon égard et pourquoi il a désiré me voir à Versailles. Toi? Fit vivement Louise. À Versailles? Le roi aura appris que tu es un noble cœur et que tu es digne d'être heureuse. Après tant de vicissitudes subies, tant de douleurs éprouvées. Ah, si Sa Majesté veut que tu ailles à Versailles, ce ne peut être, ma sœur bien-aimée, que pour te donner la récompense, la seule que désire ton cœur, et que tu as si bien méritée par tes vertus. Diane, allant aux deux jeunes filles, les réunit dans un même embrassement pendant que le comte emmenait le docteur Hébert. Les 8 jours qui suivirent furent pour tous les hôtes de l'hôtel de Linière 8 jours d'anxiété avec des alternatives d'espérance et de découragement. À Versailles, la cérémonie de la réception de l'envoyé de Washington s'annonçait comme devant avoir un caractère grandiose, mais exclusivement national. Le roi avait voulu ménager la susceptibilité des puissances amies et, partant, avait décidé que les ambassadeurs ne seraient pas invités à Versailles pour la circonstance. Louis XVI voulait en outre que la salle du trône fût pour la cérémonie remplacée par le salon d'honneur du Grand Trianon. Les tapissiers de la couronne furent chargés de disposer tout pour que la majesté royale se trouvât dans un cadre digne d'elle. Marie-Antoinette avait suggéré au roi la pensée de faire arriver Monsieur de Vaudrey directement à Versailles dans le costume qu'il portait sur le champ de bataille. Donc, le courrier envoyé au-devant du chevalier était chargé de lui communiquer les ordres formels de Sa Majesté. Roger n'avait pas à hésiter. La seule permission qu'il obtint fut d'annoncer par un express son arrivée au comte et à la comtesse de Linière. Au surplus, le lieutenant de police s'était tenu au courant de tout ce qui se passait à Versailles. Et au jour dit, il quitta son hôtel en compagnie d'Henriette. Quand le comte de Linière se présenta, le roi se trouvait seul, arpentant le délicieux jardin où il aimait d'habitude à aller s'isoler pendant quelques heures. Au nom de monsieur de Linière que prononçait le chambellan du service, Louis XVI s'arrêta dans sa promenade. Et congédiant le chambellan, « Je vous attendais, monsieur, » dit-il au comte. Henriette, toute tremblante, demeurait inclinée. « Voici mademoiselle Henriette Gérard, » prononça le lieutenant de police d'une voix émue. Le roi leva les yeux sur la jeune fille, et faisant aux deux personnes présentes signe de le suivre, il les précéda dans un des boudoirs où, au petit Trianon, la reine recevait familièrement ses invités. « Veuillez tenir compagnie à mademoiselle, » dit-il à la dame d'honneur qui attendait dans le boudoir. Puis le roi, toujours aussi mystérieux, emmena le lieutenant de police au grand Trianon. Par les ordres du roi, une escorte d'honneur était allée attendre M. de Vaudrey à la porte de Versailles. Lorsque le chevalier fut à proximité de l'escadron, les trompettes le saluèrent d'une éclatante fanfare. Et l'officier qui commandait l'escorte s'avança au-devant de Roger en prononçant ces mots. « Sa Majesté a daigné me charger de vous accompagner auprès de sa royale personne. » Le chevalier de Vaudrey salua de l'épée par 3 fois celui qui parlait au nom du roi. Puis il prit les devants au pas de son cheval, précédé par les trompettes et suivi à distance réglementaire par l'officier et l'escadron d'honneur. La population s'était portée en grande hâte au devant de l'officier arrivant du Nouveau Monde. Elle s'était massée formant la haie sur tout le parcours que devait suivre l'escorte pour arriver à la grille du palais de Versailles. À la vue du chevalier auquel le teint bronzé par le hâle donnait un aspect martial, des acclamations éclatèrent dans le public, se communiquant de groupe en groupe au fur et à mesure que l'officier, qui était l'objet de cette manifestation, avançait dans son trajet. Et lorsque la grille du palais se fut refermée derrière l'escadron, une foule avide de spectacle demeura sur la place, se faisant de plus en plus houleuse pour se masser le plus près possible de la grille. Les officiers du roi attendaient le chevalier à l'entrée du parc. Roger mit pied à terre et, après les salutations échangées, il se dirigea en compagnie de l'introducteur des ambassadeurs vers le Grand Trianon. Les gardes du corps, rangés en bataille, occupaient tout le devant de la résidence royale. Sur le passage de l'envoyé du général Washington, ils présentèrent les armes et les trompettes sonnèrent. Aussitôt, la porte du vestibule s'ouvrit et le chevalier de Vaudreuil, portant les étendards anglais, traversa une double haie d'officiers et de gentilshommes pour arriver à l'entrée de la salle d'honneur. Sur le seuil, il s'arrêta, tandis que l'introducteur des ambassadeurs, allant s'incliner devant le roi, au pied de l'estrade sur laquelle étaient placés les fauteuils occupés par Louis XVI et Marie-Antoinette, prononçait au milieu d'un silence solennel ces mots. « J'ai l'honneur de présenter à leur majesté, Monsieur le chevalier de Vaudreuil, envoyé du général Washington. » Roger, s'avançant alors sur un signe du roi, vint à son tour jusqu'au pied de l'estrade, et fléchissant le genou, attendit que le souverain l'engagea à parler. « Je reçois avec plaisir l'envoyé du général Washington, » fit Louis XVI avec un sourire, « et j'écouterai avec plaisir le message dont le généralissime américain vous a chargé pour nous. » « Sire, » répondit le chevalier, d'une voix que l'émotion assourdissait légèrement, « le général Washington m'a fait l'insigne honneur de me choisir pour venir présenter de sa part à votre majesté ses étendards pris par le corps auxiliaire français à l'armée anglaise. En offrant à votre majesté ces trophées d'une éclatante victoire, à laquelle ont puissamment contribué les Français, le général Washington a désiré témoigner de son respect pour votre royale personne et de sa reconnaissance pour la généreuse intervention de votre majesté dans la cause de l'indépendance américaine. » Après avoir prononcé ces mots, le chevalier de Vaudreuil inclina par trois fois les étendards anglais jusqu'aux pieds du roi de France. Louis XVI, se levant alors, reçut de la main du chevalier de Vaudreuil les trois étendards qu'il passa à son premier chambellan. Au dehors, les sonneries de trompettes éclatèrent. Quand la cérémonie de la remise des trophées eut pris fin, le souverain s'adressa à Roger en ces termes. « Je remercie le général Washington du présent qu'il me fait. Je l'accepte au nom de ceux de mes sujets qui ont combattu vaillamment à côté des troupes américaines. Je suis heureux, monsieur, ajouta le roi, que le général ait choisi pour son envoyé extraordinaire un gentilhomme que j'ai remarqué et que je veux attacher désormais à ma personne. » Et s'adressant aux personnages groupés autour et au pied de l'estrade, le souverain prononça en élevant la voix. « Ce que le chevalier de Vaudreuil ne peut dire, messieurs, c'est la part éclatante qu'il a prise aux grandes actions militaires qui viennent de s'accomplir au-delà de l'Atlantique. Le chevalier s'est d'abord improvisé, je le sais, marin habile, préludant par des actes remarquables de clairvoyance et d'audace au rôle éclatant qu'il devait jouer plus tard en qualité d'homme de guerre. J'adresse ici, en votre présence, messieurs, mes félicitations au chevalier de Vaudreuil. » Roger, demeurant incliné, « Relevez-vous, monsieur, » lui dit le roi en descendant de l'estrade. Et appuyant sa main sur l'épaule du chevalier, il ajouta d'un ton de bienveillance extrême. « Je vous dois une récompense, monsieur, pour le lustre nouveau que vous ajoutez à notre gloire militaire. » Et comme Roger, ému, demeurait confondu, « Je sais, » poursuivit à voix basse le souverain, que vous avez résisté à notre désir de vous voir devenir l'époux d'une personne de très haute naissance, que nous avions choisie, estimant que vous seriez heureux et reconnaissant de voir se reporter sur vous les faveurs dont nous avons comblé votre famille. J'espère, monsieur, que cette fois, je ne vous trouverai plus aussi révolté contre mes désirs. Je vais donc vous présenter moi-même à celle qui, je l'exige aujourd'hui, portera votre nom. » Et sans donner au chevalier le temps de se reconnaître, Louis XVI ajouta d'un ton de suprême autorité. « Suivez-moi, monsieur. » Témoin de cette scène, le comte de Lignières avait passé par de violentes angoisses pendant tout le temps que le roi s'était entretenu à voix basse avec Roger. Mais quand il vit le chevalier suivre le souverain et disparaître avec lui pour passer dans une pièce contiguë à la salle d'honneur, monsieur de Lignières eut un moment de vertige. Il vit sa fortune politique s'effondrant tout à coup par le fait de la désobéissance du chevalier au désir du roi. Monsieur, dit Louis XVI, s'adressant au chevalier de Vaudreuil, je vous ai choisi une épouse que je vais vous présenter tout de suite. Roger eut un mouvement indiquant à la fois la surprise et l'angoisse. Mais redevenant aussitôt maître de soi, il osa répondre. Votre majesté m'accorde le plus grand honneur qu'un souverain puisse accorder à un de ses plus humbles sujets. J'ai, pour la faveur dont votre majesté daigne me combler, à plus vivre connaissance. Aussi est-ce... » Le roi l'interrompit d'un geste, et allant lui-même soulever la portière dissimulant la porte d'un boudoir, il fit un signe. Aussitôt, Henriette Gérard s'avança, le front incliné et en proie à une émotion violente. Alors, le roi, s'adressant à Roger, « Voici l'épouse que je vous destine, monsieur, » prononça-t-il d'un ton qu'il voulait rendre sévère. « J'espère que vous ne vous opposerez pas cette fois à l'accomplissement de mes désirs, et que je ne serai pas contraint de vous donner impérieusement l'ordre d'épouser mademoiselle Henriette Gérard. » La jeune fille, après avoir passé par des transes mortelles, ressentait une joie si subite et si forte qu'elle demeurait silencieuse et tremblante. Quant à Roger, les paroles prononcées par le roi le trouvaient si peu préparé que pendant quelques secondes, il sembla avoir perdu l'esprit. Puis tout à coup, il se précipita aux genoux de Louis XVI et saisissant la main que le roi lui tendait pour le relever, il la porta vivement à ses lèvres. Pendant tout ce temps, Henriette, revenue à elle-même, était allée s'agenouiller à côté de son fiancé, si bien que le souverain semblait donner lui-même la bénédiction nuptiale aux deux êtres qui l'unissaient pour toute une existence de bonheur et d'amour. Le caractère paternel du roi se manifestait une fois de plus en cette circonstance. Et après avoir laissé le lieutenant de police se morfondre dans les transes de l'incertitude, il jugea le moment venu de cesser les angoisses de l'oncle de Roger. Entrebâillant la porte qui ouvrait sur la salle d'honneur, il se trouva tout à coup en présence du comte de Lignières, qui peu à peu s'était rapproché de la pièce où Louis XVI s'était enfermé avec le chevalier. « Votre présence ici, dit en souriant le souverain, me dispense, monsieur, de vous faire appeler auprès de moi. Venez donc assister à une scène de famille qui me paraît être pour moi un véritable succès d'auteur. » Et Sa Majesté poussa doucement monsieur de Lignières devant les deux jeunes gens qui étaient demeurés à genoux, côte à côte, la main dans la main et le front incliné. Le roi autorisa alors le chevalier à accompagner son oncle qui allait ramener Henriette Gérard à Paris. Roger ne parut plus donc dans la salle d'honneur que pour prendre congé de leur majesté. Pendant que cette dernière cérémonie s'accomplissait, le comte de Lignières quittait Trianon avec la fiancée de Roger pour monter dans le carrosse qui devait les transporter à Paris. Tout le monde était sur pied à l'hôtel de Lignières quand le comte, accompagné de Roger et d'Henriette, y arriva. Picard était depuis des heures occupé à faire les 100 pas devant l'hôtel. Et sa pauvre tête était pleine de pensées bourdonnantes qui se devinaient à la pantomime comique qu'exécutait le vieux serviteur. Aussi fut-il le premier à se précipiter pour ouvrir la portière du carrosse. Et lisant la joie et le bonheur dans les yeux des deux jeunes gens, il faillit s'évanouir. En vain essaya-t-il de parler, ses lèvres s'agitaient dans un mouvement convulsif et nulle parole n'en pouvait sortir. Le comte eut pitié de lui. « Oui, Picard, dit-il, c'est fait, le roi consent. » Alors, Picard, retrouvant subitement la parole, s'écria. « Ah, quelle reconnaissance ne devrons-nous pas à Sa Majesté! Nous allons donc enfin pouvoir nous marier !» Et sans perdre une seconde, le brave serviteur s'élança dans le vestibule en criant à la valetaille, accouru pour voir Roger. « Nous avons l'agrément de Sa Majesté! Le roi nous comble de ses faveurs! Nous sommes le plus heureux des gentilshommes de France! Et nous nous marions !» La comtesse de Lignières et Louise attendaient anxieuses. Quand Roger parut sur le seuil, donnant le bras à Henriette, Diane voulut se précipiter au-devant d'eux. Mais elle chancela, et s'appuyant sur le bras de Louise, « Ah, mes enfants, mes chers enfants » s'écria-t-elle. « Je vois, je comprends, je devine. » « Oui, Diane, » fit le comte en courant prendre la comtesse dans ses bras. « Désormais, vos vœux seront accomplis. » Déjà, Roger et Henriette étaient aux genoux de Diane, que M. de Lignières avait doucement conduite à un fauteuil. Picard avait suivi ses maîtres. C'est lui qui apprit à Louise l'accueil que Louis XVI avait fait au chevalier de Vaudrey et à Henriette.